France Culture. Signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Je veux rassembler une vingtaine d'âmes et quitter ce monde de guerre et de misère, fonder une petite colonie où il n'y aura pas d'argent, mais une sorte de communisme pour tout ce qui concerne les nécessités de la vie et une vraie décence entre les êtres. Un endroit où l'on peut vivre simplement, en dehors de cette civilisation, avec quelques autres personnes qui soient aussi en paix et heureuses et qui vivront et comprendront et seront libres. J'extrais ces lignes d'une lettre de 1915, écrite par le romancier D.H. Lawrence à l'un de ses amis, un vieux militant socialiste anglais du nom de Willie Hopkins. À l'époque où il écrit cette lettre, Lawrence a déjà rompu avec tout l'establishment littéraire britannique. Certains le prennent pour un espion allemand, d'autres, comme Virginia Woolf, jugent que quelque chose cloche chez lui. Quant à lui, il a déjà en tête certains des romans qui seront censurés une fois publiés et qu'ils feront considérer tour à tour comme un fasciste, un libertaire anarchisant, un féministe, un misogyne, un pornographe abordant franchement la question d'homosexualité. Sexualité masculine tout en étant homophobe, un mystique, un matérialiste athée. À la fois tout et rien de tout cela, D.H. Lawrence fut surtout avec Joyce, Kafka et quelques autres, l'un des très grands écrivains à tenter de saisir son époque de guerre et de bouleversement technique dans toutes ses oppositions. Et c'est la raison pour laquelle il nous parle encore. En cette période de fête, Gallimard publie dans la Pléiade certains de ses plus grands textes, Femme amoureuse et l'amante d'Eddie Charterley notamment, avec quelques nouvelles, et c'est l'occasion de faire le point sur cet auteur encore méconnu, très méconnu aujourd'hui par le public français. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, les traducteurs du volume de la Pléiade, Marc Poré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature anglaise, vous avez traduit Robert Louis Stevenson, vous avez traduit quelques livres de Conrad, vous avez écrit aussi Monuments et modernité dans l'art et la littérature britannique et américain, et puis un livre sur Salman Rushdie avec Alexis Stadier. Et Laurent Burry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature anglaise à l'Université Lumière, Lyon 2, et vous avez traduit entre autres Jane Austen, Virginia Woolf, Lewis Carroll et Stevenson également. Vous êtes aussi critique, vous êtes tous les deux d'ailleurs critiques, il me semble, critiques littéraires.
Oui, oui, pour en attendant Nadeau, notamment.
Voilà. D.H. Lawrence, c'est un écrivain qu'on connaît peu, et puis c'est un écrivain qui écrit de manière très particulière, il me semble. On va tout de suite commencer peut-être par la question de la traduction. Quel problème particulier pose les livres, les nouvelles de D.H. Lawrence? De quelle façon est-ce qu'il utilise l'anglais?
Alors, il a un anglais que l'on dit répétitif.
Marc Poré.
Oui, répétitif. Virginia Woolf le prend de haut. James Joyce dit qu'il a un anglais négligé. Mais c'est surtout cette affaire des répétitions qui suscite l'intérêt, c'est-à-dire que lui maintient que les répétitions sont essentielles pour la musicalité de la langue. Il n'y a pas de musique sans la répétition. C'est un peu l'argument de Milan Kundera dans « Testament trahi », dans lequel il dit les traducteurs français n'aiment pas la répétition et donc choisissent systématiquement de mettre un synonyme. Or, et Kundera est furieux. Or, on appauvrit ma langue quand on la remplace par des synonymes. Moi, je veux que ça répète, donc ça répète. Et Lawrence répète à satiété. Et puis, il a des mots fétiches. Et il faut bien les accrocher parce que ces mots reviendront, ils seront modulés. Et puis, Lawrence joue, comme Joyce, hein, de toutes les subtilités et les glissements qu'autorise l'anglais. C'est-à-dire, il joue sur les moindres nuances, ambiguïtés, et donc se construit un vocabulaire à soi. D'ailleurs, Lawrence pratique un art qui ne lui appartient qu'à lui-même. Vous savez la fameuse formule « art for art's sake », l'art pour l'art. Oui, sauf que dans le cas de Lawrence, c'est l'art « for my sake », c'est-à-dire pour moi.
Pour un nom, oui. Laurent Burry.
Oui, en fait, je dirais même que peut-être plus que de répétition, on peut parler d'accumulation, parce qu'il y avait un effet d'entassement à force de revoir ces mêmes termes qui sont inlassablement repris, répétés, déformés parfois. On a l'impression, et c'est ce que certains lecteurs à l'époque ont rejeté, qu'il veut à tout prix faire entrer le message dans la tête du lecteur, un peu à coup de marteau, à force justement d'asséner sans arrêt les mêmes mots repris au fil du texte. Et effectivement, c'est une difficulté quand on le met en français, parce que c'est vrai qu'on a la tendance de modifier tout ça, de vouloir mettre un autre terme. Eh bien, justement, non, il faut se retenir dans ces cas-là.
Il y a un côté psalmodie.
Incantation. Ouais, incantation, incantatoire. Et d'ailleurs, hymnodie aussi. Quand on parle de la vie de Laurence, il y a bien sûr sa jeunesse, son enfance. Et dans son enfance, il a été souvent à l'église tous les dimanches, et pas seulement le dimanche. Et il chantait des hymnes. Et toute sa vie durant, il continuera à chanter dans sa tête, plutôt qu'à voix haute, des hymnes. Mmh. Et ça le marque profondément. Et donc, du coup, il y a toute une rythmique qui est dans sa langue et qu'il faut percevoir de l'intérieur de façon à la restituer à l'extérieur, si j'ose dire. Dans une langue, le français, qui n'est, hélas, pas le français, mais qui a ses propres vertus.
Mmh. Alors, il allait à l'église tous les dimanches, mais il est vite devenu proche des dissenters, les dissidents de l'église anglicane, dont on a parlé déjà dans une précédente émission sur Henry Wollstonecraft. Il s'inscrivait dans cette lignée-là.
Il s'inscrit dans la lignée du refus, du non-conformisme absolu, de la résistance à toutes les figures d'autorité. Et donc, c'est un hétérodoxe. Il n'y a pas plus hétérodoxe que Laurence. Mmh. Et il faut s'y faire, parce que sinon, on tombe de haut et puis on est dans la surprise permanente de voir à quel point c'est un révolté. Il exhale la révolte par toutes les pores de son corps.
Alors, on parlait du message, mais en fait, le message, il est extrêmement complexe. Il n'est pas nécessairement complètement d'un bloc. Ces livres sont, vous écrivez, Marc Bourret, que ces livres sont le contraire de... le contraire, vous ne l'écrivez pas, c'est moi qui le dis, mais il est le contraire de la nuance, en quelque sorte, que tout le monde recherche aujourd'hui. Il dit des choses très, en apparence, contradictoires. Son arme première, c'est l'imagination, où il s'inscrit dans cette lignée qui va de Blake à Shelley, où l'imagination est la synthèse des forces opposées, qui fera qu'on ne comprendra pas toujours son message, et ça va durer très longtemps, puisqu'il est devenu, je le disais en commençant, il a été considéré comme d'abord un révolutionnaire, et puis un proto-fasciste, un précurseur de la libération sexuelle des années 60, quand la bande d'Eddie Chatterley est redevenue lisible après la censure, et un misogyne effrayant une fois que les féministes l'ont cloué au pilori. Tout ça se trouve dans ces livres.
Oui, mais il est protestant. Et donc, il est protestataire. À toute occasion, il proteste. Et il refuse de rester dans le rang. Il sort du rang à chaque occasion. Mmh. Alors, à force, c'est un peu fatigant. Ça peut lasser. Mais si on se lasse de Laurence, on se lasse de la vie. Il faut le dire aussi simplement que ça, parce qu'il est une puissance de vitalité, malgré sa santé très fragile. Mmh. Il était poitrinaire, tuberculeux. 15 jours après sa naissance, sa mère croit le perdre. Et toute sa vie, il aura des attaques très violentes de bronchite, etc. Mais il ne veut pas nommer le nom tuberculose. Il dit, voilà, je suis poitrinaire, mais peu importe. Et donc, c'est un miracle qu'il ait survécu aussi longtemps. 44 ans, c'est court, mais vu son état, c'est long. Mais il débordait de vie, de vitalité. Il était tel l'oiseau phénix, toujours renaissant de ses cendres.
Alors, il est né en 1885 à Eastwood, dans les Midlands. Il y a certains éléments de sa biographie qui sont importants, parce que ça dit quelque chose de lui, il me semble. C'est une terre de charbon. Il est dans l'univers minier. Son père était mineur, brutal. Sa mère était plus ou moins institutrice, et elle, c'est elle qui lui a donné des ambitions littéraires très importantes. Et donc cette tension en lui entre le rapport au père brutal et dur qui commence par rejeter, il est très proche de sa mère, et puis une fois qu'il va se retrouver en particulier à Londres dans le milieu littéraire, c'est ses origines minières qui vont au contraire d'une part le faire rejeter et qui va lui-même revendiquer, et dont il va se servir dans ses livres beaucoup, comme d'un matériau littéraire, d'une part, et comme d'un moteur de révolte aussi, Laurent Bury.
Oui, je dirais que la date de sa naissance aussi est importante, puisque, comme la plupart des modernistes du début du XXe siècle, c'est quelqu'un qui est né au XIXe siècle, qui a connu les dernières années, presque dernières décennies du règne de Victoria, et qui s'est d'autant plus affirmé contre ce XIXe siècle dont il était issu, lorsqu'il a voulu voler de ses propres ailes. Et c'est ça qu'il rapproche justement de gens qui pourtant n'avaient pas beaucoup de sympathie pour lui, comme Woolf et Joyce, qui a priori n'étaient pas du tout intéressés par ce qu'il écrivait véritablement. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est de vouloir prendre le contre-pied de tout ce qui était les valeurs victoriennes, de tout ce qui a été accepté et célébré par les gens du XIXe siècle. Et donc, justement, dans ses livres, il exprime un rejet catégorique en allant jusqu'à l'extrême inverse, aussi souvent qu'il le peut.
C'est un autodidacte, et c'est très important. Et c'est un autodidacte qui est tiraillé. Il y a cette tension typique de ce qu'on appelle aujourd'hui le transfuge de classe, mais qui est en fait la position du parvenu, entre l'ambition, d'une part, et la fidélité aux origines, vers lesquelles il reviendra toujours, jusqu'à son dernier livre, L'amant de Lady Chatterley, qui resitue dans ce terrain minier d'origine, même s'il a vécu en exil pendant des années.
Oui, toute sa vie, il reviendra sur ses origines. C'est le rayonnement fossile du lieu où il est né et de ses origines prolétariennes. Laurent, c'est l'un des rares écrivains prolétaires, quoi. Je veux dire, il est enfant du peuple. Il va le revendiquer en ayant ce rapport conflictuel à son père. De toute façon, chez Laurence, tout est conflit, tout est conflictualité, mais le rapport au père est plein de tensions, parce que son père, vous l'avez dit, c'est la force brutale, c'est l'alcoolisme, c'est l'illettrisme presque, quasiment, et puis c'est la mine. Ce sont les profondeurs de la terre. Tous les jours, son père descend dans la terre et entreprend ce travail, alors certes d'exploitation, mais aussi d'excavation, c'est-à-dire qu'il creuse loin, toujours plus profond. Et ça, après avoir passé un moment à dénigrer son père, à se détourner de lui avec une sorte de virulence et de véhémence absolue, il va commencer à se rapprocher de l'image du père. Mmh. Hein, et sa mort le peinera profondément. Mmh. Mais parce que le père, c'est l'obscurité de la terre. Mmh. Et à côté de ça, le pôle opposé, bien sûr, c'est la lumière, censément de l'esprit, de la culture, des lumières.
De la mère institutrice.
Ouais, et de la mère qui voulait être institutrice.
Qui
ne l'a jamais été. À son grand chagrin, d'ailleurs. Hein. Et donc, effectivement, on le voit écartelé entre ces deux polarités.
Entre les ténèbres et la lumière, littéralement.
Complètement. Oui.
Ce qui va avec l'époque. Enfin, c'est cette tradition littéraire qui, effectivement, remonte à William Blake, où on ne sait plus quoi faire de cet héritage des Lumières, et où tout le romantisme va être un jeu entre les ténèbres intérieures et la lumière intellectuelle. Et d'une certaine façon, Laurent, c'est un romantique tardif de ce point de vue.
Je ne saurais mieux dire. Romantique tardif, romantique attardé, romantique tardif, comme on dit, style tardif, hein, c'est-à-dire style de la vieillesse, mais romantique comme il n'y en a plus, surtout que Blake, qui est son héros avec Shelley, Blake est le romantique absolu, enfin je veux dire, ultimate on dit en anglais, c'est-à-dire absolu, pas pré-romantique, mais absolument romantique. Et quelque part, Laurence, pour bien le comprendre, il faut se pénétrer de cette volonté qu'avait Novalis, par exemple, romantique allemand, de romantiser le monde. Laurence aurait voulu romantiser le monde. Hélas, le monde industriel, mécanique, résiste à cette romantisation et broie le romantisme.
I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. I sing the songs of experience like William Blake. I've no apologies to make. Everything's flowing all at the same time. I live on a boulevard of crime. I drive fast cars and I eat fast foods. I contain multitudes. Pink pedal pushers, red blue jeans.
Voilà, Bob Dylan, I Contain Multitudes, Walt Whitman, qui est une autre des grandes influences de D.H. Lawrence. Laurent Burie, vous avez traduit Femme amoureuse, qui est dans le volume de la Pléiade, qui est un des, pour moi, des plus formidables romans de Lawrence, où il y a la mine est très présente, surtout dans la première partie du livre.
Tout à fait, et les rapports de classe dont vous parlez, on les retrouve aussi à cause des deux héroïnes, qui sont deux sœurs, et dont le père est artisans, mais qui, grâce à leur statut social, l'une est artiste, elle est sculptrice, l'autre est justement institutrice, maîtresse d'école, grâce à leur profession, elles s'élèvent au-dessus de leur milieu et on les voit à plusieurs reprises n'avoir que, sinon mépris du moins, se moquer de leurs parents parce qu'elles les trouvent un peu ridicules. Leurs parents appartiennent au 19e siècle et elles, ces deux jeunes femmes, sont déjà émancipées, se projettent déjà dans une époque complètement différente. Alors évidemment, le rapport de classe, on le trouvera aussi encore plus conflictuel dans l'amant de Lady Chatterley. Mais effectivement, il est aussi beaucoup question de mineurs dans Femme amoureuse, puisque l'un des personnages principaux a hérité de son père d'une mine de charbon qu'il gère selon des méthodes capitalistes modernes et qui aboutissent à la déshumanisation aussi bien de ses employés que de
lui-même. C'est les grands thèmes de Lawrence qui sont à la fois l'arrivisme social, le dépassement de la classe sociale, l'individualisme, c'est-à-dire que les deux sœurs dans Femme amoureuse cherchent à exister en tant que telles, et puis les histoires d'amour et le rapport au sexe entre les deux couples, ces deux couples, puisque c'est l'histoire d'un quatuor, qui sont très violents en réalité. C'est des rapports qui passent sans prévenir de l'amour à la haine brutalement, ce qui est peut-être le prix à payer pour des individus quand on découvre qui on est et qu'on décide d'être par soi-même, on expérience en fait. Marc Bruy.
Oui, il y a assez peu de dialectique fine chez Lawrence. Il y a la brutalité des polarités, quoi, des pôles. Et effectivement, on passe de l'amour à la haine, on passe de la tendresse à l'anathème. Tout comme ça est binaire, assez binaire. Il y a chez Lawrence le sens très aiguisé de ce qu'il appelle « democracy of touch », c'est-à-dire la démocratie du toucher. Le peau à peau, quoi, la chair à chair. Et à côté de ça, il y a cette fascination sinistre pour l'homme fort, le leader. Et puis, il y a aussi la coexistence chez lui du phallocentrisme, il faut le dire, et puis de ce que Virginia Woolf, appelait l'androgynie de l'esprit. C'est-à-dire qu'un génie, Shakespeare, Jane Austen, sont naturellement androgynes. Ils sont tout à la fois hommes et femmes. Et Lawrence serait plutôt porté à être du côté du masculin, de la force, mais en même temps, il comprend avec une sorte d'intuition artistique, chez lui, tout est instinct. Vous avez dit, il est autodidacte, et donc il fonctionne à l'instinct. Et il comprend instinctivement que on ne peut pas être grand d'un point de vue artistique. Il ne s'agit pas ici de morale, d'intégrité et éthique. C'est vraiment le sens très sûr de l'artiste, de l'écrivain, qui comprend que si l'attelage est déséquilibré, avec trop de masculin et pas assez de féminin, ça, artistiquement, le livre va nous tomber des mains. Et il faut donc assurer cette tension constante entre le masculin et le féminin, de manière à rétablir une forme d'équilibre.
Oui, il est justement connu, reconnu pour les portraits de ces personnages féminins qui sont tous extraordinaires et très très forts et extrêmement complexes et nuancés. Enfin, en tout cas, dans les bons livres. Il y a quelques livres qu'on peut gentiment oublier.
Mettre de côté.
Mais, voilà. Mais dans les bons livres, en l'occurrence, Femme amoureuse et L'amant d'Annie Chatterley, et puis les nouvelles qui c'est le cas. Il écrivait, il parle de l'odyssée de la différence des sexes, en tant qu'elle parle à l'espèce humaine, qu'elle ne cesse de lui raconter depuis les temps lointains des histoires extraordinaires et qui, au passage, constituent notre espèce comme étant de ce fait composée de sujets parlants et de sujets sexués. C'est une réflexion, il me semble, à la fois complètement en décalage avec aujourd'hui et complètement dans l'air du temps, parce que dans ses livres, il explore toutes les nuances de cette sexualisation, y compris le lesbianisme, y compris l'homosexualité, y compris l'androgynie, vous venez de le dire, Laurent Vury.
Il y a une scène en particulier dans Femme amoureuse où on voit les deux personnages masculins être rapprochés dans une sorte de combat. Ils décident un soir, pour s'occuper, de se battre, de disputer un match de lutte japonaise. Et on voit très bien dans la façon dont les mouvements et les corps, surtout, sont décrits, que ce corps à corps pourrait aller beaucoup plus loin, surtout dans l'esprit de l'un des deux personnages. Et là, il faut dire que le texte, en fait, a été amputé par Lawrence lui-même de son premier chapitre, qui était infiniment plus explicite sur les désirs homo érotique, voire homosexuel, de l'un des deux personnages. L'auteur s'est lui-même rendu compte que ce serait totalement impubliable en son temps. Mm-hmm. Et donc, il a supprimé ce chapitre. Mais il est donné en appendice dans l'édition de la Pléiade. Et connaître ce chapitre aide à comprendre en partie les relations très souvent conflictuelles, les relations qui sont parfois presque impossibles entre les personnages masculins, féminins, ou masculins entre eux, féminins entre eux. Parce que, justement, il y a le désir d'un au-delà des relations humaines qui serait fondé sur d'autres types de contacts. Il y a d'autres scènes que celles dont je viens de parler qui, justement, laissent envisager ça. Et notamment la fin du roman où le couple, il y a deux couples, il y en a un qui s'est détruit et l'autre dont on a l'impression qu'il va survivre. Mais ce couple qui survit lui-même semble miné par de la part de l'homme, l'aspiration à autre chose que la relation homme-femme dans son sens traditionnel.
Il faudrait être d'un autre genre.
Il faudrait être d'un autre genre.
Ouais. Voilà, c'est ça. Il faudrait inventer un troisième genre.
Ouais.
D.H. Lawrence est arrivé tout près de mettre sur le papier ce troisième genre introuvable.
Il n'est pas le seul d'ailleurs dans sa génération. Il y a des choses chez Hemingway qui sont assez proches de ça. On va en dire deux mots tout à l'heure. Alors, mais je voudrais revenir sur la manière dont il est perçu. Vous parlez, Marc Porré, de la réaction de Virginia Woolf qui parle de la violente impulsion reçue lors de sa naissance à lui dans la région de Nottingham, c'est-à-dire ses origines. Et il y a aussi sa spontanéité qui confine à la rage, qui fait qu'il ne rentre pas du tout dans les cases. C'est bien que très vite, en fait, il va y avoir un divorce entre lui et le milieu littéraire anglais, particulièrement après sa rencontre avec la femme qu'il va épouser, Frida von Richthofen, en 1912, qui va être en fait, qui est plus âgée que lui de 6 ans, qui est mariée, qui a des enfants, qu'elle va quitter toute sa famille pour l'épouser, et elle va aussi le financer parce qu'elle a des moyens que lui n'a pas, et très vite, tous les deux vont être exilés, en fait. Ils vont vivre très vite dans quelque chose que Lawrence appellera le Savage Pilgrimage. Et ils vont voyager. Ils passeront l'essentiel de leur vie à voyager entre l'Italie, la Sicile, l'Autriche, le Sri Lanka, les États-Unis et finalement Mexico où ils vont se poser au Nouveau-Mexique, enfin Mexico et le sud des États-Unis, où ils vont se poser à Taos, le fameux ranch qui existe toujours d'ailleurs, et où il va essayer de créer quelque chose de cette communauté que je citais tout à l'heure en commençant.
Ça, malheureusement, ce rêve de communauté était forcément utopique de la part de Lawrence à cause de son caractère de cochon, appelons les choses par leur nom. C'était quelqu'un qui se fâchait systématiquement avec tout le monde. Il rêvait toujours de grandes amitiés qu'il aurait unies avec d'autres hommes comme Murray, le compagnon de Catherine Mansfield, mais il était insupportable. Et les gens qui ont essayé de partager son intimité comme il le voulait, il rêvait effectivement d'une colonie d'artistes qui auraient vécu dans l'harmonie, mais c'était rigoureusement impossible parce que Lawrence et sa femme passaient leur temps à se jeter les assiettes à la tête et à se frapper l'un l'autre avec la brutalité la plus insensée, et tout le monde fuyait en voyant ça. Donc ce rêve de communauté était condamné d'avance, de toute façon, par la personnalité même de Lawrence.
Mais, et peut-être la personnalité des deux, d'ailleurs, parce que Frida elle-même semble ne pas
avoir été exactement... Oui, mais elle ne rêvait pas forcément de rêver dans la communauté.
Oui. Mais on peut se demander, d'ailleurs, si ce rêve de communauté n'est pas toujours lié à des problèmes de... Enfin,
de nid
à conflit aussi. Enfin, il y a cette aspiration à une harmonie, à une liberté collective, est souvent le fruit de grandes individualités.
C'est un peu comme Van Gogh et Gauguin,
exactement.
L'atelier du midi.
Mais de fait, il y a dans Taos et dans le ranch de Taos, il y a cette espèce de pré-hippie avec un demi-siècle d'avance. Quand Lady Chatterley sera finalement publié aux États-Unis en 60, le livre va jouer un très grand rôle dans la révolution sexuelle des années 60.
Bien sûr. Oui, Lawrence est souvent prémonitoire, ne disons pas toujours. Il est prémonitoire du point de vue de la libération des mœurs. On peut dire une chose, à savoir que l'Angleterre est devenue plus fluide, plus queer, plus fluide dans les rapports entre classes, un peu grâce à Lawrence. C'est-à-dire que Lawrence a été victime du système de classe et de caste, mais en même temps, la parution notamment de Lady Chatterley's Lover en 1960 a fluidifié la société britannique, qui est devenue plus permissive, plus accueillante, plus respectueuse des minorités. Et tout ça, on le doit un peu à Lawrence. C'est-à-dire que Lawrence a payé le prix. Il a été crucifié par la société. Mais en même temps, quelque part, on ne peut plus dire tout à fait de nos jours, nul n'est prophète en son pays. Lawrence a été quelque part prophète en son pays.
Eh bien, un peu plus que dans son pays, à mon avis. Parce que certaines de ses intuitions sur ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale a joué un rôle énorme dans son évolution. Dès août 14, qui est quand même une intuition formidable, il écrit dans le Guardian, c'est cité dans le volume de la Pléiade, qu'il s'agit d'une guerre d'artillerie, une guerre de machines, où les hommes ne sont plus que le matériau subjectif de la machine. C'est si antinaturel que c'en est impensable, et pourtant il faut y penser. Les soldats attachés à la machine en sont la partie subordonnée comme la crosse est partie intégrante du fusil. On est en août 14 quand il écrit ça, c'est-à-dire la guerre a un mois, et il perçoit déjà tous les bouleversements liée à la révolution technologique dont la Première Guerre mondiale est à la fois le symptôme et la cause, ce qui est extraordinaire.
C'est ici, Marc, que le titre même de votre émission, Signe des temps, prend tout son sens. C'est-à-dire que comme la parole de Jésus condamnant les pharisiens, incapables de lire, de déchiffrer, d'interpréter les signes des temps, Lawrence est celui qui voit avant les autres ce que sera le temps et le temps à venir, le temps de la machine. Et ce faisant, Lawrence, qui a une grande culture biblique, a aussi lu un prédicateur, un essayiste, un intellectuel du 19e siècle anglais qui s'appelle Thomas Carlyle et qui, en 1828, publie un ouvrage intitulé « Signs of the Times », Signes des temps. Mm-hmm. Et ce que Carlyle voit, c'est que l'âge sera mécanique. L'âge sera celui de la machine. Et malheur à nous, parce que cette machine va tous nous faucher et nous déshumaniser.
Que
que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca.
Voilà, la Llorona, un hommage au Mexique pour Taos. Oui, on parlait du machinisme et de la démocratie de masse, qui sont les grands axes de la réflexion de Laurence, contre lequel c'est en réaction à ça que l'emphase est mise sur les rapports entre hommes et femmes et sur le sexe. C'est pas gratuit. C'est pas simplement une réaction au puritanisme de l'ère victorienne. Il y a aussi toute une réflexion sur le monde dans lequel on est en train d'entrer. Et il n'est pas le seul à son époque, il me semble. Il y a Joyce avec Ulysse, mais il y a aussi Hemingway, Le soleil se lève aussi, en 26, parle de ça, avec un personnage impuissant qui sera exactement comme le personnage de Clifford, le mari de Lady Chatterley. Il y a évidemment Céline en France, avec Le voyage en 32. Il y a Henry Miller, qui va venir ensuite. Tous ces hommes, et le fait que ce soit des hommes est important, prennent très brutalement conscience de la fin de quelque chose, ou sont hantés par la possibilité de la fin d'une certaine domination masculine, non pas du fait du féminisme, mais du fait de la technologie. Laurent Burie, et de la démocratie de masse.
Peut-être ce qui a valu à Laurence des attaques de la part de féministes après les années 60, après justement la découverte, la parution officielle de Lady Chatterley, c'est que lorsqu'il dépeint des personnages féminins notamment, il nous les montre à la fois animés d'un désir de dominer l'homme qu'elles ont rencontré, mais aussi d'être dominées par lui. Il y a justement cette contradiction chez les personnages elles-mêmes. Il y a une scène, là encore très célèbre, dans Femme amoureuse, où les deux sœurs voient l'un des deux hommes dompter son cheval, sa jument précisément, alors qu'un train passe, ils sont juste au bord de la voie ferrée, le train passe, la jument a peur, mais l'homme la maintient pour exercer d'autant mieux son autorité sur elle. Il l'oblige à rester à côté de ce train qui la terrorise, et celle des deux sœurs qui est amoureuse de lui est à la fois fascinée et révoltée par ce qu'elle voit, parce que c'est un exemple parfait de domination masculine, en l'occurrence sur l'animal, mais un animal de sexe féminin. Et donc il y a
elle le traite de tous les noms d'ailleurs.
Oui, voilà, elle l'insulte, et en même temps, elle lui tombera dans les bras quelques chapitres plus loin. Et cette volonté de domination et d'être dominé, justement, fait que le message porté possiblement par Laurence est peut-être moins immédiatement limpide. Et en ce qui concerne l'évolution des temps, il y a aussi, notamment dans les trois nouvelles dont on n'a pas encore parlé pour le moment, mais qui sont dans entre Femme amoureuse et l'amant de Lady Chatterley, chronologiquement et dans Volume Pléiade, il y a aussi le pressentiment d'une sorte de culte des élites à venir, ou bien de l'arrivée de l'homme d'élite qui imposera son autorité naturelle au peuple, et un refus de la démocratie qui s'exprime dans ces nouvelles qui ont valu aussi à Laurence l'accusation de proto-fasciste.
Ce qui n'empêchera pas d'aller contre totalement Mussolini, dont il voit la politique en Italie pendant qu'il est
Oui, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Oui.
Il ne pactise pas avec le fascisme en marche, je veux dire. Ce qu'il voit sous les yeux le convainc aisément que là n'est pas la solution. Si je peux ajouter une chose, s'agissant du machinisme et de cette énorme affaire qui broie tout comme Métropolis, quoi, c'est l'image un peu. C'est que elle il porte atteinte aussi, ce machinisme, à une communauté organique. Hein, vous mettiez en rapport sa volonté de défendre le sexe, la sexualité, l'amour. Hein, c'est-à-dire que le machinisme démembre, démantibule, désorganise la communauté humaine, la communauté spatiale, c'est-à-dire que le territoire anglais, il y a ce célèbre chapitre 11 hein, de l'amant de Lady Chatterley, où Constance fait un tour en voiture et elle s'aperçoit à quel point l'Angleterre pastorale, l'Angleterre verte de la campagne est en train d'être effacée. Remplacé par l'Angleterre industrielle. Et ça, c'est une vision qui terrifie autant Corny que Lawrence. C'est-à-dire qu'il voit là le développement du capitalisme écocide. Il voit une sorte de destruction organisée de tout ce qui touche à ce qui nous est commun, c'est-à-dire le corps comme organisme de vie. Et tout ça, il le voit en train d'être balayé, remplacé, effacé. Et quelque part, la cause environnementale, c'est-à-dire le souci, care en anglais, hein, le soin, le souci de l'environnement comme communauté vivante et qui nous relie aussi bien à la campagne qu'au cosmos. Tout ça, c'est quelque chose qui fait de Lawrence, encore une fois, quelqu'un qui anticipe sur ce que nous vivons aujourd'hui.
Mais alors, il le fait jamais de manière, conservatrice ou réactionnaire. C'est-à-dire que dans ses livres, il expose les champs de tension, en fait. Il n'y a pas de nostalgie. Pas du tout même. Et c'est le dernier point que j'aimerais aborder, c'est la question du présent. Diaz-Lawrence est un écrivain pour qui l'expérience et le temps présent sont fondamentaux. Il n'est pas du tout dans le passé. Ses livres même, si j'ai bien compris ce que vous écrivez d'ailleurs l'un et l'autre, sont des livres qui essayent de capter le présent et d'en rendre compte. Et ils s'écrivent comme ça en quelque sorte.
Il y a effectivement une sorte de note marginale ajoutée à Femmes amoureuses où Lawrence explique qu'il veut, bien que son roman ne soit pas précisément daté, il n'y a aucun événement précis qui permettrait de dire voilà ça se passe en telle année, il veut que le lecteur sente la présence de la guerre justement omniprésente, enfin constante dans le texte, alors qu'il n'en est jamais fait mention puisque le roman a été écrit en partie avant le déclenchement du conflit. Mais il tient à ce que cette idée de la guerre hante la conscience des lecteurs. Et tous ces autres textes qui sont traduits dans le volume, eux, au contraire, sont tout à fait marqués par la guerre. Les nouvelles, certaines se passent en Allemagne occupée par les vainqueurs, ou alors il y a aussi des personnages qui reviennent du conflit plus ou moins mutilés. Et l'une des nouvelles, d'ailleurs, anticipe un peu sur l'amant d'Edith Chatterley. L'héroïne se projette, d'ailleurs, en tombant amoureuse d'un garde-chasse. Donc il y a les conséquences de la guerre sont tout à fait présentes.
Il y a un texte de lui qui s'appelle La poésie de l'instant présent, où il revendique le vers libre, la fin du vers rimé, où il écrit « Dans le présent immédiat, il n'y a pas de perfection, de consommation, rien de fini. Tous les fils volent, frissonnent, s'entremêlent pour former la trame. Ne me donnez rien de fixe, rien de figé, rien de statique. » Et il écrit ses romans exactement de la même manière. Il en fait plusieurs versions, il ne sera pas le seul après, mais il essaye à chaque fois chaque version différente est une tentative pour accaparer le temps du moment d'une expérience donnée. Et vous rapprochez ça, Marc Porré, de la question de l'autofiction, du fait que l'écrivain devient, d'abord il utilise dans tous ses romans beaucoup d'éléments autobiographiques,
sans vergogne.
mais c'est le moment où l'écrivain devient aussi le champ d'une expérience du monde en quelque sorte, dont il va falloir rendre compte.
Ça, ce terme est central, celui d'expérience, je veux dire. C'est un concept, non, c'est une notion qu'il emprunte, Lawrence, qu'il emprunte notamment à un autre poète romantique anglais qui s'appelle John Keats, pour lequel la vie devait être prise on the pulses, c'est-à-dire qu'il faut poser ses doigts sur son pouls et il faut sentir les battements du sang. Le sang est un mot qui revient sans cesse chez Laurence, on lui en a fait le reproche, mais ces battements de la vie et de l'expérience sont effectivement ce que la poésie du présent a de plus précieux, à savoir son caractère infini, non fini, son caractère inachevé, son caractère fractal, furtif, non maîtrisable. Et tout ça, Laurence cherche à le capter, comme vous dites, à le saisir, en sachant que c'est insaisissable, c'est elusive, pour le dire en anglais, c'est-à-dire que ça échappe. Hein. Mais Virginia Woolf a la même conscience de ce
oui,
qui échappe.
C'est ça, mais tous, en fait, tous ceux de cette génération vont baser leurs œuvres sur leur expérience, sur leur autobiographie, pour faire des fictions qui essayent de capter un temps qui est en train de changer considérablement. C'est vrai d'Hemingway, c'est vrai de Miller, c'est vrai de Céline, tous.
Et c'est la raison pour laquelle Laurence dynamite le roman.
Oui.
Le roman bourgeois, j'entends. Hein, le roman avec une intrigue, avec un personnage. Et il prend le couple. Parce que le couple, c'est un champ de tension permanent. Et donc, du coup, ça suffit.
Et voilà.
Moralité, il n'y a pas de séquence, il n'y a pas de... Comment dirais-je si, il y a des chapitres, mais ce sont plutôt des flux. Ce sont ce que Deleuze dirait des... Oui, voilà, des pulsions.
Voilà. Et c'est l'esthétique de la tension. Et on peut finir l'émission là-dessus. Merci Marc Poré, merci Laurent Bury. Je rappelle le volume Gallimard, L'amant de Lady Chatterley et autres romans, dont Femmes amoureuses de D.H. Lawrence, dans la Pléiade qui est en train de sortir en ce moment. Parfait cadeau pour cette fin de fête de fin d'année. Bonne année à tous et à l'année prochaine. C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Masset, avec à la technique Rubens Karmazin et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
Wondrous machine. Wondrous machine. To thee the war. Bling doot, the war, bling doot, the loot thou used to conquest. Must be forced to yield. Must be forced to yield.